au pays des contes. Bienvenue au pays des contes. Eh bien, voici des contes qui viennent de loin dans le temps et dans l'espace, mais qui courent toujours le monde. Écoutez, pour commencer, c'était avant, quand la montagne était jeune, toute petite, quand la mer était jeune, toute petite, quand le fleuve Amazone était jeune, oh, pas plus gros qu'un ruisseau. Il y a longtemps. Alors la forêt couvrait toute la terre. Là où la montagne a poussé, il y avait la forêt. Là où la mer est venue, il y avait la forêt. Partout, il y avait la forêt. Et dans la forêt, il y avait des bêtes. Il n'y avait pas d'hommes alors. Il y avait seulement la forêt avec des bêtes dedans. C'est tout. Le reste, c'est venu après, plus tard. Il y avait toutes sortes de bêtes dans la forêt. Des grandes et des petites, des puissantes et des faibles, des méchantes et des gentilles, toutes sortes de bêtes. Les bêtes grandes et méchantes faisaient des misères aux autres, et les autres n'osaient rien dire, elles avaient peur. Les bêtes grandes et méchantes ont dit « Nous sommes les maîtres de la forêt, tout le monde doit nous obéir. Ça nous ennuie de faire la chasse, ça nous fatigue. » À partir de maintenant, les bêtes que nous mangeons viendront nous trouver toutes seules, de leur propre volonté. Une bête de chaque espèce à chaque repas. C'est un ordre. Qui a dit ça? Le puma a dit ça. Et le caïman, et le grand boa. Le serpent crotal a dit ça aussi. Oh, il n'est pas grand, mais c'est le plus méchant de tous. Les petites bêtes faibles et douces n'étaient pas très heureuses avant ça. Les grandes bêtes méchantes leur faisaient beaucoup de misère, mais au moins les petites bêtes faibles pouvaient s'enfuir et se cacher quand une grande bête les poursuivait. Maintenant, elles n'avaient même plus le droit de faire ça. Les petites bêtes n'étaient plus heureuses du tout. Elles étaient devenues malheureuses, tout à fait. Tellement malheureuses qu'elles ont oublié d'avoir peur. Elles ont dit « les grandes bêtes méchantes se disent les maîtres de la forêt ». De quel droit? Elle nous oblige d'aller de nous-mêmes à la mort. De quel droit? Ce n'est pas juste. Qui a dit ça? La souris a dit ça. Et le lièvre, et l'iguane, et le singe, et le petit cochon pécarier, et le tatou. Le tapir a dit ça aussi. Il est gros, mais il est très doux et timide. Les grandes bêtes méchantes ont dit... Ce n'est pas la peine de discuter. Vous devez obéir. Juste ou non, c'est comme ça. C'est comme ça parce que nous sommes les maîtres de la forêt. Nous sommes les maîtres de la forêt parce que nous sommes les plus forts. Un point, c'est tout. Les petites bêtes douces ont dit « Oh, il faut empêcher ces grandes bêtes féroces d'être les maîtres de la forêt. Il faut faire quelque chose. » Mais elles ne savaient pas quoi. La chauve-souris est intelligente. Elle a dit « Si l'un d'entre nous avait plus de force que ces grandes bêtes méchantes, c'est lui qui deviendrait le maître de la forêt. Et il nous laisserait tranquilles. » Ah, les autres petites bêtes ont dit « Excellente idée. Le tapir est le plus grand de nous tous. Il va lutter avec les grandes bêtes. Il va les vaincre. Il deviendra le maître de la forêt. Comme ça, nous serons tranquilles. Ah, » Le tapir est grand et gros, mais il est très timide. Il a dit « Je n'ose pas. Les grandes bêtes vont me manger. J'ai peur. » La chauve-souris est intelligente. Elle a dit « Il ne faut pas choisir le plus grand. Il faut choisir le plus courageux de nous tous. Qui est courageux? Qui veut aller mesurer sa force à la force des grandes bêtes méchantes ?» Oh, le tatou a dit « Pas moi !» Le singe aussi. Et l'iguane et la tortue et le cochon pécari. Ils ont tous dit « Pas moi !» Ils avaient peur. Alors, la fourmi est venue. Elle a dit « Je veux bien aller lutter avec les grandes bêtes méchantes. Je n'ai pas peur. » Oh, tout le monde a ri. La fourmi est tellement petite. Mais la fourmi a dit « Ne riez pas. Moi, toute seule, bien sûr, je ne peux rien contre ces grandes bêtes méchantes. Mais le peuple des fourmis, tout entier, peut les vaincre. Je n'ai pas peur. » Et la fourmi est allée chez les grandes bêtes féroces. Et elle a dit, « Vous croyez que vous êtes les maîtres de la forêt. Vous croyez que vous êtes les plus forts. Ce n'est pas vrai. Le peuple des fourmis a plus de force que vous tous. » Oh, les grandes bêtes ont ri. La fourmi est tellement, tellement petite. La fourmi a dit, « C'est pas la peine de rire. Mesurons plutôt nos forces. Toi, le caïman, montre-nous ta force. » Le caïman était couché au bord d'un ruisseau, et ce ruisseau, c'était le fleuve Amazone, mais il était encore tout petit. Le caïman a ouvert son énorme gueule, il a refermé ses énormes mâchoires sur le tronc d'un arbre, un arbre très grand, très gros. D'un seul coup de dent, le caïman a brisé l'arbre. L'arbre est tombé. Le caïman a dit, « Voici ma force. Que la fourmi nous montre la sienne. » La fourmi a dit, « Je vais le faire. » Elle a appelé ses compagnes. Les fourmis sont venues, toutes les fourmis de la forêt, tout le peuple des fourmis. Oh, il y en avait beaucoup, encore plus que ça. Les fourmis ont rongé les arbres. Chaque fourmi n'a enlevé qu'un tout petit morceau, pas plus gros qu'un grain de poussière. Mais les fourmis étaient nombreuses. Elles ont rongé les arbres sont tombés, 10 arbres, 100, 1000. Ah, ça a fait une grande trouée dans la forêt, une très grande trouée. Et la fourmi a dit, le peuple des fourmis a plus de force que le caïman. Toi, le boa, montre-nous ta force aussi. Le boa était accroché à une liane très grande, très grosse. Le boa a serré ses énormes anneaux, il a fait craquer la liane. Il a cassé la liane en tout petits morceaux. Et le boa a dit, vous avez vu ma force. Que la fourmi en fasse autant. Et la fourmi a dit, voilà, tout de suite. Elle a fait signe à ses compagnes. Les fourmis se sont jetées sur les arbres qu'elles avaient abattus. Chaque fourmi n'a enlevé qu'un tout petit morceau de bois. Oh, pas plus gros qu'une brindille. Mais les fourmis étaient nombreuses. Elles ont réduit les arbres abattus en poussière. Elles les ont fait disparaître complètement. Ah, ça a fait un grand espace vide dans la forêt. Jamais on n'avait vu un aussi grand espace vide avant. La fourmi a dit, le peuple des fourmis a plus de force que le boa. Voyons la force du puma maintenant. Oh, le puma, lui, il était couché sur le sol couvert de mousse. Il a levé son énorme patte. Il a frappé la terre de son énorme patte. Il a labouré la terre de ses énormes griffes. D'un seul coup de patte, le puma a creusé un grand trou dans la terre. Un trou très large, très profond. Le puma a dit, j'ai montré ma force. Que va faire la fourmi maintenant? Et la fourmi a dit, vous allez le voir. Elle a fait signe à ses compagnes. Aussitôt, chaque fourmi a pris un peu de terre et elle est allée la déposer plus loin. Chaque fourmi n'a pris qu'une toute petite parcelle de terre. Oh, pas plus grosse qu'un grain de sable. Mais il y avait beaucoup de fourmis. Elles ont creusé la terre. Ça a fait un grand trou dans la terre. Un trou plus grand que tous les trous qui existaient avant ça. Et à côté, là où les fourmis ont déposé la terre enlevée, ça a fait une montagne. Une montagne plus haute que toutes les montagnes qu'il y avait avant ça. La fourmi a dit, le peuple des fourmis a plus de force que le puma. Il a plus de force que toutes les grandes bêtes féroces. Il est le véritable maître de la forêt. Les grandes bêtes sont féroces, mais elles sont aussi très lâches. Elles ont eu peur. Elles ont dit, le peuple des fourmis est le maître de la forêt. Que daigne-t-il ordonner à ses esclaves obéissants? Qui a dit ça? Le caïman a dit ça. Et le boa. Et le puma. Le serpent crotal a dit ça aussi. Oh, il est le plus méchant de tous, mais c'est aussi le plus lâche. Les fourmis ont dit, notre force est plus grande que la vôtre. Et vous le savez maintenant. C'est bien. Laissez tranquilles les petites bêtes sans défense. À part ça, vivez comme vous voulez. Et les fourmis sont parties. Les grandes bêtes méchantes sont parties aussi. Tout le monde est allé à ses affaires. Mais il est resté au milieu de la forêt le grand espace vide et aussi le trou creusé par les fourmis et encore la montagne que les fourmis avaient faite. Peu à peu, l'eau du ruisseau a coulé dans le trou. Peu à peu, l'eau a rempli le trou. Ça a fait le lit du fleuve Amazon. Ça a fait le fleuve Amazon et aussi la mer. Oh, le trou était très grand. Et là où les fourmis avaient déposé la terre enlevée du trou, ça a fait la cordillère des Andes. C'est comme ça que c'est arrivé. Comme ça, et pas autrement. Maintenant, il y a longtemps de ça, un conte inuit nous dit que les filles d'un village de la côte ramassaient le chou marin. Elles riaient, plaisantaient entre elles. De la mer, un phoque les regardait. Quand les filles sont parties, le phoque a plongé dans la mer. Il est allé trouver son père. Il a dit « Les filles de la terre sont belles, très belles. Elles sont aimables, gaies. « C'est une fille de la terre que je veux épouser. » Son père a dit « Tu le veux, mais voudra-t-elle ? » ?»« Essaye. » Le phoque est sorti de la mer. Il a grimpé jusqu'au village, sur la rive haute. C'était difficile, fatigant. Le phoque s'est arrêté devant la première maison. Il a appelé « Jean du dedans ?» Un homme est sorti. Il a vu le phoque, il s'est étonné. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, homme de la mer ?» « Je viens me marier, » a répondu le phoque. « Si tu as une fille, je veux l'épouser. Oh, » Le mari, il a appelé sa fille. « Regarde quelle fiancée je t'ai préparée. » La fille est sortie, elle a regardé le phoque, elle a ri. « Ah ben, il arrive bien. Il n'y a plus de graisse pour le feu. Ce fiancé nous aidera à nous chauffer. » Et de son couteau, elle a coupé un morceau de graisse dans le dos du phoque. La fille et son père sont rentrés chez eux en riant. Et le phoque blessé est resté là. Il a rampé jusqu'à une autre maison. Il a appelé « Jean du dedans ». Un homme est sorti qui a demandé « Que viennent faire chez nous les gens de la mer ? Pourquoi es-tu là ?»« Pour me marier », a répondu le phoque. « Avec ta fille, si tu en as une. » « J'ai une fille », a répondu l'homme en riant. « Demande-lui si elle veut de toi. » La fille est venue. Elle a regardé le phoque. Elle a éclaté de rire. Elle a dit « Un beau fiancé, vraiment. Justement, j'ai envie de graisse de phoque fraîche. Ce fiancé va nous offrir un bon dîner. » De son couteau, elle a taillé une longue lamelle de graisse dans le dos du phoque. Et elle est rentrée en riant dans sa maison. Le phoque s'est traîné jusqu'à la maison voisine, il a appelé Jean du dedans, mais il n'en pouvait plus, il souffrait, il croyait mourir. À l'homme qui est sorti de la maison, le phoque a pourtant demandé d'une voix faible « Tu as une fille, je voudrais l'épouser. » L'homme a appelé sa fille, elle est sortie. Quand le phoque l'a vue, il a oublié toutes les autres filles qu'il avait vues. Il a oublié ses blessures, sa fatigue. Il a tout oublié, tellement cette fille était belle. Il a dit « Veux-tu m'épouser ?» La fille a penché la tête d'un côté, puis de l'autre. Elle a répondu « Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Viens vivre chez nous, il faut d'abord soigner tes blessures. Après, on verra. » Elle l'a fait entrer dans la maison, l'a couchée, l'a soignée. Avec de la vessie de tari, elle a pansé ses blessures. Elle l'a nourrie de viande de renne pilée avec des airelles. Elle l'a soignée comme ça longtemps. Et en le soignant, elle lui parlait gentiment. Quand le phoque a été guéri, il a demandé « Et maintenant, que me diras-tu ? Veux-tu de moi pour mari ?» La fille a répondu « Maintenant, je te connais. » Maintenant, je peux répondre. Tu as le cœur sincère, Tu as le cœur courageux. Il y a de la bonté dans tes yeux. Je veux bien t'épouser. » Et ils se sont mariés. Ah, les autres filles du village se moquaient de la femme du phoque. Elles disaient « Un mari sans bras, sans jambes, c'est tout ce qu'elle a trouvé. Un mari justement a donné de la graisse pour le feu, de la graisse pour le repas. » À quelque temps de là, le phoque a dit à sa femme « Il faut que j'aille voir mes parents. M'attendras-tu ? Et me reconnaîtras-tu quand je reviendrai ? Je t'attendrai et je te reconnaîtrai, a dit sa femme. » Et le phoque est parti. Et les filles du village ont ri. Ah, voilà notre épouse de chien de mer abandonnée. Il ne lui reste plus qu'à devenir otari pour aller chercher son mari au fond de la mer. La femme du phoque ne disait rien. Elle vivait tranquillement. Elle attendait. Un jour, il y a eu un grand bruit dans le village. Des troupeaux de rennes arrivaient. Un troupeau de rennes blancs, un troupeau de rennes noirs, un troupeau de rennes gris, un troupeau de tachetés. Et derrière venaient des traîneaux chargés de fourrures précieuses. Et devant marchait un jeune homme. Un jeune homme tellement beau qu'il fallait se voiler les yeux pour ne pas être aveuglé par sa beauté. En voyant un pareil fiancé, les filles du village ont couru se parer, se faire belles. Elles sont sorties de leur maison toutes souriantes, accueillantes. Le jeune homme est passé devant elles sans les regarder. Il s'est arrêté devant la maison de la femme du phoque. Il a appelé « Jean du dedans ?» Et la femme est sortie. Le jeune homme a dit « Me voilà. Me reconnais-tu ? » ?»« Je te reconnais. Tu es le phoque, mon mari. » »« Ton mari, je suis. Et je suis le fils du maître de la mer. Tout ça, ce sont les cadeaux de noces que mes parents nous envoient. Ils sont très contents de notre mariage, très heureux. À présent, les gens de la mer et les gens de la côte sont parents. À présent, les gens de la côte feront toujours bonne pêche, bonne chasse. » Alors l'une des filles du village a crié « C'est mon fiancé à moi, c'est moi qui l'a demandé en premier. » Et une autre fille a dit « Moi aussi, il m'a demandé en mariage. » La femme du phoque a pris son mari par la main. Elle a dit « Il vous a demandé en mariage, c'est vrai. Toi et toi, il vous a demandé. » « Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous l'avez blessé. Vous vous êtes moqué de lui. Mon mari, il est, mon mari, il restera. » Et ils sont rentrés chez eux, le phoque et sa femme, pour y vivre longtemps, pour y vivre heureux. Peut-être que leurs petits-fils, que leurs arrière-petits-fils vivent encore dans ce village, dans cette maison, qui sait ? Et voilà, c'est tout fini. Eh bien, l'histoire que je vais vous dire maintenant commence là où les autres finissent, oui, à la mort des héros. Et si l'administration infernale ne commettait pas autant de bévues que les administrations terrestres, rien de tout cela ne serait arrivé. Torici était jeune, belle et de famille riche. Nan était jeune, beau et pauvre. Ils habitaient des villes différentes, ne se connaissaient pas et sont morts le même jour. Ils avaient l'un et l'autre 16 ans. Après leur mort, les jeunes gens devaient comparaître devant Tibouane, le maître des enfers. Une épidémie de fièvre maligne venait de ravager le pays et les morts étaient nombreux. En attendant leur tour, Nan et Torici ont eu le temps de faire connaissance, de bavarder longuement et de tomber amoureux l'un de l'autre. C'est la main dans la main qui se sont présentés à l'appel du maître des enfers. Et c'est alors que tout a commencé. En vérifiant l'identité des entrants dans son royaume, Tibouane s'est aperçu d'une erreur. Un certain Nan de Ichu figurait sur ces listes, mais c'est Nan de Wiven qui se tenait devant lui. Une gaffe administrative. D'un geste agacé, le maître des enfers a congédié le jeune homme. Tu as été convoqué par erreur, rentre chez toi. Bah, c'était une bonne nouvelle. Pourtant, Nan ne se hâtait pas de partir. Serrant plus fort la main de Torishi, il a dit « Cela m'ennuie de faire le voyage tout seul. Est-ce que cette jeune fille ne pourrait pas m'accompagner ?»« Oh, impossible. Elle est entrée ici régulièrement. » Nan suppliait, mais Tibouane restait inflexible. Alors, le garçon a déclaré qu'il refusait de s'en aller. Il n'était pas venu en fraude, mais sur convocation officielle, et personne n'avait le droit de l'expulser. Nan plaidait sa cause avec beaucoup de chaleur. « Je suis très pauvre. Un homme doit se marier, et qui voudrait épouser un miséreux ? Ici, tous sont égaux, et cette jeune fille accepte de devenir ma femme. Nous nous aimons. » Ses prières avaient fini par toucher le maître des enfers. D'un autre côté, Tibouane cherchait une issue honorable à la situation déplaisante créée par ses services. Et il a fini par dire « Je ne peux changer ce qui est écrit dans les livres du destin. Il m'est impossible de te garder, impossible de créditer cette jeune fille d'une nouvelle vie. Mais voici ce que je te propose. » D'après les livres du destin, tu dois vivre jusqu'à l'âge de 68 ans. Si tu donnes une part des années qui te restent à vivre à ton amie, elle pourra s'en aller avec toi. En le remerciant avec effusion, Nan a immédiatement partagé le restant de sa vie en deux moitiés égales, une pour Torishi, une pour lui. Satisfait d'une solution qui contentait tout le monde et évitait le scandale, Tibouane a appelé un petit chien en disant « Suivez ce chien et vous reviendrez chez vous. » « Nous allons d'abord échanger nos noms, » a dit Nan. « Ce sera notre lien et notre signe de reconnaissance. » Il a écrit son nom entre les omoplates de Torishi, puis la jeune fille a écrit le sien sur le dos de Nan. Après quoi, ils ont suivi le petit chien. Le chien les a menés au bord d'un fleuve et là, il a plongé dans l'eau. Les jeunes gens l'ont imité et aussitôt, leurs âmes sont allées rejoindre leur corps dans les maisons endeuillées. Aux parents stupéfaits, ils ont raconté ce qui s'était passé et comment ils étaient désormais liés l'un à l'autre. Mais, tandis que la famille de Nan sanglotait de bonheur, le père de Torishi, après s'être réjoui, comme il convient, a déclaré qu'il ne croyait pas un mot de cette histoire. Sa fille mentait, elle avait tout inventé. Ou peut-être avait-elle rêvé pendant son sommeil semblable à la mort. Ben, cet homme avait ses raisons. Peu avant la mort de Torishi, il l'avait fiancée à un riche fonctionnaire, puisqu'elle redevenait vivante et il entendait conclure au plus vite ce mariage avantageux. Mais Torishi gardait confiance. Et en effet, le jour même de son mariage, Nan est arrivée chez ses parents. Pour preuve de leur union dans l'au-delà, le jeune homme a montré le nom de Torishi écrit sur son dos. Et la jeune fille a dit « Vous voyez bien, c'est mon mari. » Son père ne pouvait plus nier l'évidence. Mais il a dit « Ni le ciel, ni l'enfer ne sauraient aller contre la volonté paternelle. Tu épouseras celui que j'ai choisi. » Nan et Torishi se sont consultés du regard. Et la jeune fille a dit « Puisque vous m'empêchez de vivre avec celui à qui j'appartiens, je refuse de continuer à vivre. Et Nan va reprendre la vie qu'il m'a donnée. » Pâle de colère, le père a crié « Tu oses me braver ? Alors meurs ou va-t'en, tu n'es plus ma fille. » S'il pensait briser ainsi la volonté de l'indocile, il se trompait. En s'inclinant très bas, Torishi a dit simplement « Merci, père. » Et prenant la main de Nan, elle a quitté la maison paternelle, sans tristesse ni regret. Et les jeunes gens s'en sont allés dans la vie, tout au bonheur d'être ensemble. Et ce bonheur a duré aussi longtemps qu'eux-mêmes. Oh, ils étaient pauvres et devaient travailler dur pour assurer l'avenir de leurs enfants. mais l'amour rendait tout facile. Comme ils savaient leur temps mesuré, ils ne le gaspillaient pas en vaines querelles et s'aimaient encore plus tendrement. Ils sont morts le même jour, à la même heure, au même instant, en se tenant la main. Et aux étrangers qui passent dans leur village, les gens montrent leur tombeau et racontent comment une erreur de l'administration infernale a réuni ce couple parfait. Et même aujourd'hui, au pays du matin calme, quand on veut parler de gens qui s'aiment vraiment, on dit « ils s'aiment comme Nan et Torishi ». Eh bien, pour terminer, autant plus vieux que jadis, plus ancien qu'autrefois, le roi des oiseaux régnait sur tout ce qui vole. Un jour, il a convoqué ses sujets et il leur a parlé. « Je suis le puissant des puissants. Il me faut, pour me nourrir, le meilleur du meilleur. Qui de vous fera le tour de la terre ? Qui goûtera le sang de tout ce qui vit pour me dire lequel est le plus agréable à boire ?» Personne ne répondait. À goûter le sang des autres, c'est le sien qu'on risque de verser. Même les grands rapaces hésitaient. Alors le moustique s'est avancé. Illustre roi, permets aux plus vils de tes esclaves d'aller chercher à travers le monde le noble sang, seul digne de t'abreuver. Le moustique a une petite âme perfide. Depuis longtemps, il souhaitait devenir le mouchard attitré du roi et l'occasion lui a paru bonne. Le roi a consenti avec bienveillance. « Va donc et fais le travail en conscience. Si tu réussis, je te nommerai mon mouchard en chef. » Et le moustique s'est envolé, ivre d'espoir. Il a volé tout autour de la terre, piquant et buvant le sang de tout ce qui vit, du plus petit vermisseau à l'éléphant le plus gros. Il revenait, riche de sa science acquise, quand il a rencontré l'hirondelle. « Salut à toi, moustique. D'où viens-tu ? » « À toi, salut, hirondelle. » Je viens de faire le tour de la terre par ordre du roi. Il m'avait chargé d'apprendre quel sang est le plus agréable à boire et je vais rendre compte de ma mission. Ah, curieuse, l'hirondelle a demandé, et tu sais quel est le meilleur sang ? Gonflé d'importance, le moustique a répondu, je le sais. C'est le sang de l'homme. Il n'en existe pas de plus délicieux. Mais tu ne vas pas le dire au roi, s'est alarmée l'hirondelle. Si tu le dis, le roi va faire la chasse à l'homme. Et après, peu m'importe le sort de l'homme. « Oh, je t'en prie, suppliait l'hirondelle, l'homme est mon ami, je veux pas qu'il lui arrive malheur. »« Ton ami n'est pas le mien, » a répondu le moustique. « La seule chose que l'homme a de bon, c'est son sang. Quand notre roi lui fera la chasse, j'en aurai ma part. » Et le moustique s'est envolé au palais du roi. « Ah, te voilà, lui dit le roi, raconte ce que tu as appris. » « Selon tes ordres, seigneur, j'ai fait le tour de la terre. Après avoir goûté le sang de tout ce qui vit, je peux te dire en toute certitude, le sang le plus doux, le sang le plus savoureux, le sang le plus délectable, c'est le sang de... » Mais le moustique n'a pas pu achever. L'hirondelle l'avait suivi et d'un coup de bec, elle venait de lui arracher la langue. Et le moustique s'efforçait de dire « l'homme », mais tout ce que l'on entendait, c'était « Le roi a crié, irrité, « mais que signifie ce gargouille ? Je ne comprends rien à ce que tu racontes !» Et l'hirondelle a dit modestement « je sais ce que... « Dis ton messager, Seigneur, le moustique m'a confié son secret, le sang le plus sain et le plus agréable à boire est le sang du serpent. » Le roi s'est tourné vers le moustique. « Et toi, la parole liée, ce que dit l'hirondelle est vrai ?» Et le moustique voulait crier « Non, elle ment !» Mais on entendait toujours que « Tu l'entends, Seigneur ?» Il dit « Serpent, serpent !» Et l'hirondelle a parlé ainsi et le roi a approuvé. Tu dis vrai, et tu en seras récompensé. Quant à toi, misérable bègue, disparais de ma vue. À quoi peut servir un mouchard incapable de répéter ce qu'il a entendu ? Et voilà pourquoi les aigles, qui sont les descendants du roi des oiseaux, mangent les serpents. Et ils croient que c'est la meilleure nourriture du monde. Et voilà pourquoi les moustiques boivent le sang humain. Et voilà pourquoi l'homme, grand ami des hirondelles, est l'ennemi des moustiques qui l'écrase sans pitié. Thank you. Eh bien, revenons du pays des contes où nous avons été transportés en quelques mots pour y retourner une autre fois peut-être. Au revoir.